VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, jeudi 28 juin 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, la mission des casques bleus au Mali, renouvelée pour un an. Au Tchad, reprise du procès de l'ex-gouverneur d'Obadam, Nouki Charfadine. Les violences interethniques persistent au Nigeria et en Éthiopie. Un incendie a fait 15 morts au Kenya. Les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki. Ne ratez pas le journal du Mondial. Le Sénégal s'est incliné 1-0 face à la Colombie. Mais d'abord, les nouvelles. La mission des casques bleus au Mali, renouvelée pour un an. Les 15 membres du Conseil de sécurité qui ont voté à l'unanimité ont toutefois mis en garde les parties maliennes pour obtenir des progrès rapides dans le processus de paix. Cette mission ne restera pas pour toujours au Mali et cette résolution est claire sur le fait que nous ne pouvons plus accepter des retards pour la paix, a averti l'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l'ONU. Même son de cloche côté français, l'ambassadeur à l'ONU François Delattre a laissé entrevoir la possibilité d'une stratégie de sortie pour la MINUSMA et exposé de possibles sanctions contre les responsables des blocages. La MINUSMA compte quelques 15 000 casques bleus, soit l'une des missions les plus importantes de l'ONU, qui ont payé un lourd tribut lors de leur déploiement en 2013 avec plus d'une centaine de militaires tués. Au Tchad, le verdict est tombé cet après-midi dans l'affaire ministère public et maître Doumra Manassé contre l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Charfadine, et des co-détenus. Il a été condamné par le tribunal de grande instance de N'Djamena à 5 ans de prison ferme avec 5 millions d'amendes. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Adam Nouki Charfadine a été jugé coupable pour destruction de biens, empiètement sur les fonctions judiciaires, discrédit jeté sur la décision judiciaire, complicité à la détention arbitraire, outrage à magistrat et attentat à la liberté. Lui et le commandant de la Légion de la Gendarmerie de Doba, Jamal Mahamat Nimir en cavale, et son adjoint sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme avec 5 millions d'amendes chacun. Un mandat d'arrêt a été émis contre Jamal Mahamat Nimir, toujours en fuite. Les trois gendarmes écopent chacun 6 ans d'emprisonnement ferme avec 200 000 francs d'amende et sont radiés de leur corps. Colère des avocats de la défense qui entendent interjeter appel puisque la loi leur accorde un délai de 10 jours. Pour maître Olivier Guara de la défense, à quelques minutes de ce verdict, certains individus sont déjà au courant de la peine qui allait être prononcée par les juges. Pour lui, un appel sera relevé pour dénoncer cette fuite d'informations et ce qu'il qualifie de parodie de justice. Maître Doumra Manassé, l'auteur de la plainte, se dit partiellement satisfait de ce verdict et entend lui aussi faire appel pour que le droit soit véritablement dit. Car pour lui, l'affaire est criminel parce que, précise-t-il, l'un de ses clients libéré par la justice, puis repris par Adam Nouki Charfadine et ses hommes, est porté disparu. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Nigeria, l'armée dit avoir arrêté 17 suspects en lien avec les massacres de plus de 200 personnes dans l'état du Plateau le week-end dernier. 3 personnes arrêtées en possession de 4 fusils, de 3 armes artisanales sont liées aux meurtres dans les villages de la région de Barikin-Ladi. Les 14 autres seraient connectés aux attaques commises contre des peuls sur la route du sud de Jos. Les membres de l'ethnie Bérom avaient dressé des barricades le long de la route en représailles à des tueries dans leur village. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se rencontreront bientôt, d'après la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien. Ce sera la première rencontre en près de 20 ans entre les chefs d'État de ces pays frères, mais ennemis de la Corne de l'Afrique. Une délégation érythréenne de haut niveau a effectué une visite historique cette semaine à Addis Abeba. Cette visite est intervenue après que le premier ministre éthiopien annonce son intention d'appliquer un accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. À Asusa, dans l'ouest de l'Éthiopie, 10 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des membres de l'ethnie Oromo, la principale du pays, et des membres de l'ethnie locale Berta. Un médecin indique que des personnes ont été soignées pour commotion crânienne et blessures par balles. Les causes de ces violences ne sont pas encore définies. Les Nations Unies, qui craignent une propagation des violences, font état de plus de 2 millions de déplacés internes à cause des affrontements intercommunautaires. Au Malawi, 6 albinos ont décidé de se présenter aux élections générales prévues l'année prochaine pour dénoncer les préjugés et les violences meurtrières qui frappent régulièrement leur communauté depuis des années. Au Kenya, 15 personnes sont mortes et plus de 70 autres blessées la nuit dernière dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de Nairobi. Nathalie Barge.
L'incendie s'est propagé à des bâtiments adjacents après s'être déclaré dans un dépôt de bois du marché dans l'est de Nairobi. De nombreux pompiers et l'armée kényane ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont récupéré 9 corps dans le bâtiment calciné. Plusieurs personnes sont portées disparues. Les secours essayaient encore ce matin d'accéder à certaines parties du marché où il y avait une épaisse fumée et des câbles électriques. Les autorités ont eu des difficultés à contenir les propriétaires d'échoppes qui tentaient de s'approcher malgré les nombreuses explosions de bonbonnes de gaz. Le marché de Gikomba a subi plusieurs incendies ces dernières années, provoqués notamment par des installations électriques artisanales. Les autorités du comté de Nairobi tentent d'établir les causes de cet incendie.
Madagascar, le nouveau Premier ministre Christian Ntsay promet que les élections présidentielles et législatives prévues cette année seront transparentes et libres. Le gouvernement n'écartera personne de l'élection et publiera dans le plus bref délai les décrets d'application des lois électorales, a-t-il ajouté dans sa première déclaration devant le Parlement. Le vote des lois électorales jugées favorables au président a été à l'origine des manifestations. Monsieur Ntsay a été nommé à la tête d'un gouvernement dit de consensus, censé conduire le pays jusqu'aux prochaines élections générales. En Égypte, 10 personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe djihadiste ont été tuées et 2 autres arrêtées dans le cadre de l'enquête sur un attentat commis en mars. Un policier avait été tué dans une attaque à l'explosif à Alexandrie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet à Helsinki en terrain neutre. Eric Maniarakis.
La Maison-Blanche et le Kremlin ont annoncé simultanément la rencontre entre les deux chefs d'État en préparation depuis des mois. Ce sommet constitue une nouvelle tentative de réchauffer des relations qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Messieurs Trump et Poutine aborderont l'état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines et les principaux sujets internationaux. Mercredi soir, le président Trump a affirmé son intention d'évoquer notamment les crises en Syrie et en Ukraine. Selon le Kremlin, le sommet devrait comporter un tête-à-tête, un repas de travail, une conférence de presse conjointe et la publication d'une déclaration commune. Avant le sommet, Donald Trump doit assister au sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles, puis il est attendu à Londres le 13. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est félicité de ce premier sommet entre Washington et Moscou.
Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a menacé d'opposer son veto aux conclusions du sommet de l'Union européenne consacré à la question migratoire si l'Italie n'obtient pas satisfaction pour ses demandes. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
L'Italie attend des actes forts des dirigeants européens sur la question migratoire. Ce sommet sera un choix et je suis disposé à en tirer toutes les conséquences, a averti le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dès son arrivée à Bruxelles pour cette rencontre. Monsieur Conte dit avoir obtenu beaucoup de manifestations de solidarité d'autres dirigeants européens sur le sujet, des propos qu'il souhaiterait voir se traduire par des faits, sinon son pays pourrait opposer un veto. Le chef du gouvernement populiste de Rome a rappelé avoir soumis une liste de demandes lors d'une réunion informelle avec 15 de ses homologues européens dimanche dernier à Bruxelles. Selon lui, la proposition soumise par l'Italie est raisonnable et conforme à l'esprit et aux principes de l'Union européenne sans donner plus de détails. Il souligne que son pays n'a plus besoin de signes verbaux mais de faits concrets et que cette rencontre devra faire un choix clair et net entre deux voies.
Au moins 22 civils ont été tués ce jeudi en Syrie. Les raids aériens imputés à l'aviation de Moscou visaient la province de Deraa, cible d'une offensive du régime de Bachar al-Assad. C'est en tout cas ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal du mondial, signé Yacouba Ouédraogo.
Terrible désillusion pour le Sénégal ce soir en Russie. Les Lions de la Teranga sont éliminés de ce mondial après une défaite 1-0 face à la Colombie. Un pénalty refusé pour le Sénégal en première mi-temps sera sans doute le tournant du match. Le Sénégal est éliminé malgré la défaite du Japon 1-0 également face à la Pologne. C'est la différence de cartons jaunes plus nombreux côté sénégalais, 6 au total, qui a permis aux Nippons de se qualifier avec leurs 4 cartons jaunes. Règle donc du fair play en faveur du Japon. On retrouve sur place Amdine Si, envoyé spécial de VOA Afrique, aux côtés du Sénégal en Russie.
Pourtant, le Sénégal avait bien démarré cette rencontre en exerçant un pressing qui a gêné quand même cette équipe colombienne durant la première mi-temps. Mais comme vous le savez, il y a eu quand même un fouet de match durant cette partie. C'était à la 16e minute. L'arbitre de la rencontre avait accordé un pénalty suite à une faute de Sanchez sur la salle de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané. Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir visionné quand même les images. Le Sénégal a continué quand même à gérer cette première période. Finalement, les équipes sont retournées au vestiaire sur ce score de 0 buts partout. Au retour des vestiaires, les Colombiens, qui savaient qu'une victoire pouvait les qualifier, ont mis quand même la pression sur les Lions du Sénégal. Ils ont quand même continuer à attaquer, et ce qui devait arriver arriva lorsque sur un corner, le coup de tête du défenseur quand même colombien a trompé la vigilance de Khadim Diaye, qui n'a pas pu retenir le ballon. Les Sénégalais ont essayé de tenter, mais ils ont été maladroits à l'arrivée. L'équipe nationale du Sénégal perd, donc le Sénégal sort de cette compétition par la petite porte.
Merci donc Amdine Si depuis Samara en Russie avec les Lions de la Teranga. Déception des supporters sénégalais à Dakar, mais aussi dans la capitale américaine.
C'est le sport. You know, il faut qu'un gagnant et un perdant aussi. Hein. Donc nous sommes très fiers de nos Lions du Sénégal, qu'ils ont fait un tournoi exceptionnel, une jeune équipe. Donc c'est ça le football. Hein. Donc tu perds et puis il faut rebondir.
Un supporter donc sénégalais au micro d'Azuma Compaoré, ici à Washington. Au total, les cinq équipes africaines, disons, étaient présentes en Russie. Ces cinq sont éliminées. Mauvaise année pour le football africain. C'est le coup de sifflet de Gilles Valentin Goué depuis Libreville, au Gabon.
Bonsoir. La sortie précoce des représentants africains de la Coupe du Monde 2018 peut déjà permettre de présenter le bilan de l'épopée du continent dans la compétition. Tout le monde se félicitait du casting final après les éliminatoires de la zone Afrique, dans la pléthore de clubs rassurés et la jeunesse talentueuse des deux représentants de l'Afrique subsaharienne était porteuse d'espoir. Les résultats ont été mi-figue et mi-raisin. L'Afrique du Nord a, comme à son habitude, produit un football de qualité, étalant sa technique individuelle et collective, sa culture tactique évidente et malgré des résultats insuffisants, des scores normaux de football, en dehors d'une Tunisie qui, face à la Belgique, a fait preuve de laxisme. Les ailes de Carthage se sont autorisées d'encaisser 5 buts contre 2, un score anachronique depuis un certain Russie-Cameroun en 1994. Sinon, sans fixation absolue sur son joyau gala, l'Égypte aurait eu ses chances. Avec un arbitrage plus correct et plus de respect pour l'Iran, le Maroc aurait passé le premier tour, sans doute au détriment d'un des deux favoris de poule, le Portugal et l'Espagne. Tandis que, par manque de conviction, la Tunisie mériterait que la sélection rende des comptes. Par contre, c'est de l'Afrique subsaharienne traditionnellement plus exposée à l'incertitude qu'est venue l'heureuse sensation. Nigérians et Sénégalais sont tombés de justesse, des armes à la main et avec la manière. Par ailleurs, une interprétation plus favorable des ralentis leur aurait ouvert les portes des huitièmes de finale sans que personne ne crie au scandale. L'Odyssée africaine s'arrête à la porte du second tour, mais l'Afrique tient son rang et confirme ses progrès. Il reste juste à ses formations à soigner des détails qui font pencher la balance. À bientôt.
Sachez donc que dans le match pour l'honneur entre le Panama et la Tunisie, eh bien, les Aigles de Carthage sont en train de perdre 1-0 face aux Panaméens. Et nous jouons donc les premières 45 minutes 0-0 entre la Belgique et l'Angleterre. C'est ici bien sûr qu'on s'arrête pour le journal du Mondial. À très vite.
Retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. À Dakar, des milliers de personnes étaient réunies à la place de la Nation pour regarder le match Sénégal-Colombie du groupe H. Le Sénégal a perdu sa chance d'aller en huitième de finale. Aucune équipe africaine n'a réussi à franchir le cap du premier tour. Sur place, le reportage de notre correspondant, Sédina Abagay.
À la place de la Nation, les supporters étaient relativement confiants et bouillants après une première période parfaitement maîtrisée par les Lions. Une prestation collective jusqu'alors satisfaisante pour les fans de l'équipe nationale du Sénégal, comme l'indique Abdoulaye Ba Traoré.
Bon, d'après les 45 premières minutes, on est satisfait de nos Lions. Bon, ils ont produit de très bons jeux, oui. Bon, ça reste que le but. On a eu au penalty, mais malheureusement, l'arbitre l'a pas sifflé, voilà. Oui, Diao Balde Keita a surpris tout le monde. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, je croyais que Diao n'était pas à 100%, mais là, ce qui nous a, produit en bonne mi-temps, franchement, c'est satisfaisant.
À la mi-temps, les supporters, comme Seydina Oumar, se projetaient déjà sur un éventuel huitième de finale.
On attendait Diao Balde qui est venu et qui a donné tout son talent. Vraiment, on est très satisfait. Fantastique, vraiment fantastique. On est derrière eux et on les supporte de bout en bout, de A à Z, vraiment. À 200%, on va qualifier, Inch'Allah, et aller battre l'Angleterre ou le Belgique, Inch'Allah.
Les ambitions affichées par les Sénégalais seront douchées par le but de la Colombie à la 74e minute. Un but qui a plombé les chances de qualification du Sénégal et plongé dans la tristesse les supporters présents à la fan zone. Fatima Wan en perd ses mots.
Insuivant la vie, la défaite vient à chaque moment qu'on n'attendait pas. Nous avons bien joué, mais si la défaite vient, ça vient. Personne n'y peut rien. Mais nous prions pour nos clients de faire la mienne la prochaine fois. Bien continuer comme ça, ça ira là pour la prochaine fois, Inch'Allah.
Malgré l'élimination, l'équipe du Sénégal a un avril radieux devant elle, d'après Djibi Diallo.
Il faut quand même essayer de gérer la défaite avec philosophie. Nous tous, on aurait souhaité vraiment se qualifier, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc moi je me dis qu'il faut savoir gagner dans la dignité, mais aussi perdre dans la dignité. Nos Lions n'ont pas démérité, on est une équipe jeune, et vraiment, moi je dis chapeau bas à cette équipe, et vraiment, il faut quand même leur donner la chance quand même de se préparer encore pour d'autres séances.
À Dakar, l'euphorie qui entourait une éventuelle qualification du Sénégal a laissé place à une tristesse totale. Les supporters sont déçus par l'élimination mais restent optimistes quant à l'avenir de cette jeune et talentueuse équipe sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Maroc, la condamnation des meneurs du Hirak, le mouvement de protestation qui a agité le pays en 2016-2017, a suscité l'indignation. Claire Morin-Gibour a joint le journaliste judiciaire Brahim Moklis.
On n'attendait pas qu'il y ait un verdict aussi lourd que ça. Donc c'est pour ça que la réaction a été très présente, soit fait des communiqués à travers des organisations auxquelles il appartient, des ONG, même des avocats qui ne défendent pas les personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. On fait des communiqués, on fait des articles, on fait des chroniques. Des citoyens ont manifesté hier, juste après l'annonce du verdict. Des gens sont allés pour contester devant la prison où sont détenues les personnes condamnées. Il y a eu hier des manifestations à Casablanca et à Rabat, une à Casablanca dans une place très connue, et à Rabat devant le Parlement. Donc il y a une panoplie de réactions de la part des gens, sans parler de ce qui se passe sur les pages Facebook, les réseaux sociaux en général. Les mêmes partis politiques ont vétusé. On n'a pas vu une réaction aussi rapide que ça de la part des partis politiques marocains. Plusieurs formations politiques ont fait des communiqués pour appeler un peu à revoir ne serait-ce qu'on appelle la gravité de ce verdict.
À votre avis, que va-t-il se passer dans les prochains jours ?
Justement, c'est la grande crainte, c'est qu'il y ait une réaction qui s'amplifie, que les gens sortent dans la rue pour contester la gravité de ce verdict. Parce que surtout, on entend parler maintenant de ce qui se passe à Al-Fatima, aussi à Jarada, parce que en guise de préparation de l'autre procès des gens qui ont été détenus dans le cadre des procès de Jarada, les gens sortent à Oujda, dans la région où se trouve Jarada, et aussi à Al-Fatima et Nador. Donc la crainte, c'est qu'il y ait d'autres manifestations et qu'il y ait une confrontation avec les forces de l'ordre. Donc c'est la grande crainte.
Est-ce que vous pensez que l'on peut espérer une grâce du roi ?
Oui, là aussi c'est une alternative qui était attendue d'ailleurs depuis le démarrage du procès. Mais est-ce que ça va avoir lieu ? Parce qu'en général, la grâce n'intervient qu'après la fin des procès, de son processus, et que les décisions prises aient atteint l'autorité de la chose jugée. Donc il faut attendre que le procès se termine pour qu'il y ait une grâce dans ce sens-là.
Mais le procès est terminé, là ?
Non, c'est en première instance. Il va y avoir l'appel. Donc ce n'est que le premier degré. Ce sont les décisions qui ont été prises en premier degré. Donc il faut attendre l'appel.
Brahim Mohdis, journaliste au Maroc.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Angar, dans le centre du Nigeria, les cultivateurs sont en deuil suite au massacre du week-end dernier. Plus de 200 personnes ont été tuées dans une dizaine de villages lors de violences entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits récurrents sont principalement fondés sur des questions foncières. Les précisions avec Didi Dico.
Les violences de samedi dans la région du Plateau sont apparemment des représailles à la mort jeudi dernier de 5 éleveurs peuls tués par des fermiers de l'ethnie Bérom. Selon le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalongue, ces affrontements auraient causé la mort de plus de 200 personnes. La police nigériane, qui soupçonne les éleveurs, a fait état de 86 morts, mais de nombreuses sources locales, les membres des communautés affectées, avancent un bilan de plus de 100 morts. Les attaquants n'ont pas pu être clairement identifiés. Écoutons Chiro Mayasu, le chef communautaire du village d'Ungar.
Ceux qui sont venus sont des étrangers. Nous ne les connaissons pas.
L'insécurité au Nigeria semble grandissante, contrairement à la promesse faite par le chef de l'État, Muhammadu Buhari, celle de garantir la sûreté des Nigérians. Après les dernières violences, de nombreuses voix se sont élevées pour exiger le départ du président s'il ne parvenait pas à mettre fin à cette résurgence des violences intercommunautaires. Du côté des populations touchées, l'aide ne semble pas arriver. Mafouak Matouré, un résident d'Ungar, explique avoir tout perdu.
Ceux qui nous ont attaqués ont tout brûlé. Ma maison a été rasée, ils nous ont pillé et pris tout ce qui était viable. Nos motos, nos engrais pour travailler la terre et même ma télé. Nous voulons quitter cet endroit, mais personne ne nous vient en aide.
Pour certains, au vu de la situation, il ne reste plus qu'une chose à faire, partir. Comme l'a fait Paulina Auta, une résidente de Ganarop.
Je pars à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous étions assis là et tout à coup, nous avons vu débarquer des individus vêtus de noir. Ils ont commencé à tirer.
Désormais, la terreur ne semble plus venir uniquement de l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les violences interethniques sont aussi à l'origine des effusions de sang. Au Nigeria, le règlement de ce conflit de longue date entre éleveurs et fermiers est devenu un enjeu clé pour les prochaines élections en février.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. En Angola, le président João Lourenço, depuis son arrivée au pouvoir, a limogé beaucoup de proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, fils de l'ancien président, a quitté la direction de la Sonangol, la société nationale de pétrole. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Isaias Samakuva, président de l'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola, qui était hier dans nos studios à Washington.
Je ne sais pas si les départs d'Isabel dos Santos et des autres sont un signal de la lutte contre la corruption. Parce que je pense que c'est normal quand quelqu'un arrive à certaines places, il a besoin de mettre des gens qu'il connaît bien, des gens dans lesquels il a confiance. Donc d'abord, des changements de personnel, je pense que c'est quelque chose de normal dans ce cas-là. Donc,
si on change le personnel et qu'on est convaincu qu'il y a eu détournement, pourquoi il n'y a pas procès des enfants de Dos Santos, par exemple?
Dans ce cas-là, c'est pas même la lutte contre la corruption, c'est peut-être la lutte contre le népotisme. Parce que, ce que beaucoup de gens disent, la gestion d'Isabel Dos Santos n'était pas quelque chose de négatif. Mais si nous considérons que Isabel dos Santos a été nommée par le père, donc ça vraiment un signal de népotisme que M. João Lourenço veut aussi combattre.
Mais pourtant, on dit qu'Isabel dos Santos, c'est la femme la plus riche du continent.
Donc, en ce qui concerne la corruption, si nous parlons d'Isabel dos Santos, il fallait investiguer la source de la richesse d'Isabel dos Santos. Ça, donc, nous pourrions dire que c'est un signal de la lutte contre la corruption. Parce que si elle est la femme plus riche de l'Afrique, il fallait savoir si la richesse qu'Isabel dos Santos a est venu des affaires normales, et légales ou pas. La loi qui a été faite pour demander que ceux qui ont pris de l'argent, des fonds du pays pour l'étranger, devraient le mener au pays. Cette loi aussi, à notre avis, c'est une loi qui va légaliser simplement le détournement des fonds du pays.
C'est-à-dire parce que quand on ramène l'argent au pays, en fait, l'argent, on est toujours propriétaire.
Absolument. Mais dans ce cas-là, quand on mène l'argent au pays, l'argent est vôtre, donc c'est légal.
Isaias Samakuva, président de l'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Michel Joseph, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.